La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre-Yves.
Bonsoir Baptiste.
C'est quoi ça, le centre automatisé de Montréal de la SAQ?
Bon, la SAQ, premièrement, ça vend du vin, hein. C'est des bouteilles, là, où tu vas là-bas pis t'achètes de l'alcool.
C'est pas la régie des liqueurs, ça?
C'est la commission des liqueurs. Maman a dit à la régie. Non, mais eux, ils ont évidemment des entrepôts, hein, des succursales. Et là, on a un centre automatisé qu'on veut agrandir. On veut, dans le fond, comprendre qu'à la SAQ, on se prépare à demain, on se prépare à aujourd'hui, on se prépare à ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire faire comme les autres commerces de détail, comme Dollarama. Je sais pas si tu connais le groupe Robert. Le groupe Robert a fait un entrepôt réfrigéré pour gérer la logistique des produits réfrigérés au Québec. T'as aussi FedEx qui est là-dedans. T'sais, t'as toutes les entreprises qui se gèrent et qui se disent « Nous avons des entrepôts, nous faisons de la logistique, on optimise. » Simons investit aussi. Et la SAQ n'est pas différente. Évidemment, ça crée un petit peu de brasse camarade. À l'interne, t'as les syndicats qui disent dans les journaux c'est une catastrophe écologique, c'est un non-sens financier, on devrait partir en succursale plutôt que centraliser des choses. Du côté de la SAQ, on dit, ben voyons donc, on peut mieux servir notre client en lui permettant de commander en ligne et maintenant de raccourcir le délai de livraison de produits uniques à des endroits qui sont peut-être desservis d'une façon un peu moins uniforme dans certaines circonstances. Et quand on regarde ça froidement, sortons d'alcool, Patrick.
Oui.
Oublions que c'est de l'alcool qu'on vend. Quand je vais à l'épicerie, Patrick, puis là, je ne vais pas forger personne, là, mais quand je vais à l'épicerie, là, puis je me cherche une huile d'olive, est-ce que dans toutes les places où j'achète de l'huile d'olive, je suis conseillé? Je vais t'avouer que non. J'arrive dans le rayon des huiles d'olive, il y en a à 7$, puis il y en a à 35-40. Et là, ultra vierge, pressée de tel endroit, puis là, je ne sais plus. Hein. Qu'est-ce que je fais, Patrick? J'en essaie une. Si je l'aime, je l'apprécie, je la rachète. Sinon, je l'achète une autre.
Ça coûte moins cher que le vin.
Le vin, l'affaire, c'est que là, on a un débat au Québec qu'on veut pas casser, mais il y a des vins, des circonstances où on veut du conseil et des circonstances qu'on veut pas de conseil. La personne qui va acheter sa bouteille de Kim Crawford pour manger ses sushis, qui achète la même bouteille de Kim Crawford semaine après semaine pendant 22 ans, cette personne-là va chercher sa bouteille. Alors, on veut du conseil, quand on veut découvrir, quand on veut poser des questions. Et ça, on est tellement bien servi à la SAQ. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des points de service qui sortent du conseil? Est-ce qu'on peut avoir des points de service avec des caisses automatisées?
En libre service.
Est-ce qu'on pourrait avoir du vin en vente ailleurs qu'à la SAQ? Je sais qu'il y a du vin en vente ailleurs qu'à la SAQ. Je suis pas cave, là. Je vis au Québec comme tout le monde. Je sais qu'il y a des places qui ont des licences. Je sais tout ça. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on pourrait casser le modèle toujours géré par la SAQ, mais casser ce modèle-là et proposer des choses. La SAQ propose une décentralisation, ou une centralisation plutôt d'une certaine distribution, automatiser le processus en disant « c'est un produit, il y a de la logistique, on peut-tu faire comme les autres commerces? » Et là, on a des règles internes qui font qu'on lutte. Je comprends ça. Comment le client est-il mieux desservi? Comment la SAQ fait le meilleur profit? Comment le gouvernement tire son meilleur dividende? Il y a plein de forces ou de parties prenantes qui tirent de leur côté. On a d'ailleurs une exposition au taux d'intérêt, au taux de change, au coût de la marchandise, au coût des personnes. Donc, c'est pas évident. T'sais, je donne un exemple de situation à la SAQ qu'on va devoir prendre. Est-ce qu'on se débarrasse du trois quarts de nos frigos pour couper des coûts, puis finalement dire au monde, faites comme avant, mettez votre bouteille dans le frigo? T'sais, ça, c'en est une réflexion de la SAQ à long terme.
Parfait. Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Parlons maintenant des préoccupations de BlackRock, oui, qui est une grande firme d'investissement. Mm-hmm. Là. Et la préoccupation du grand patron là-bas, c'est sur l'avenir des retraités qui vivent, je veux pas dire trop longtemps, Pierre-Yves, mais qui vivent maintenant tellement longtemps que ben ils risquent de finir leur vie dans la pauvreté.
Larry Fink fait le parallèle dans sa lettre aux actionnaires avec ses parents. Il dit « Mes parents ont vécu une vie décente avec un revenu décent et la promesse qu'on leur faisait, qu'on s'occupait d'eux jusqu'à la fin de leur jour, était décente. » Évidemment, quand t'es Larry Fink, président de BlackRock, on s'entend que ton intérêt est dans les marchés financiers. Alors lui, il dit que la solution des défis des infrastructures et de se financer auprès des marchés financiers parce que les pays ne peuvent plus se financer à même leur fonds de roulement. Et il dit que, dans le fond, les gens ont une façon de se bâtir une retraite, c'est avec les marchés financiers. On comprend ça, on comprend son billet, mais il va plus loin. Mais il parle surtout de la réalité américaine qui dit, dans le fond, là, la société se bat pour vivre plus longtemps, pour étirer la vie des gens. Mais on ne planifie pas leur retraite. Il dit on ne les aide pas à bâtir la maison de leur retraite parce qu'on parle de sécurité sociale, mais à la génération actuelle, on leur dit « Arrangez-vous avec ce qu'on vous dit et ce qu'on vous donne. » Et donc, nous, au Québec, on a cette chance-là d'avoir une société peut-être un petit peu plus interventionniste, qui des fois est frustrante. Par exemple, de payer automatiquement du RRQ, ça me donne une retraite, mais ça m'enlève de la liberté. Mais on a des filets sociaux comme le supplément de revenu garanti. On a des mécanismes fiscaux comme le REER qui encouragent les gens à cotiser comme l'équivalent aux États-Unis. Mais il amène quelque chose d'intéressant de dire les Américains n'ont pas d'épargne parce qu'ils n'ont pas la perception qu'ils ont la capacité d'épargner. Alors nous, notre filet social qu'on met en place avec les écoles, l'aide aux enfants, les soins, est-ce qu'on gaspille le filet qu'on nous donne dans un non-investissement en retraite? C'est un peu la question sous-jacente que j'avais en lisant ce qu'il y avait à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait la comparaison entre les différentes sociétés. Il va au Japon en disant « Au Japon, on a réfléchi à l'âge de la retraite parce que les gens vivent très vieux au Japon. Dans d'autres pays, on a une surpondération face à l'or. » Il dit « Dans le fond, il y a des pays où les gens économisent juste à la banque en plaçant l'argent contre de l'intérêt. » Donc, il dit « Il y a un travail mondial à faire parce que d'une culture à l'autre, on a une vision différente. » Et lui, évidemment, il fait la promotion des marchés financiers, Patrick. Évidemment. Et c'est pas pour rien. Il y a des produits à offrir et tout ça. Mais c'est intéressant de dire, est-ce qu'on va s'occuper de ce problème de société-là? Parce que tant que t'es actif, t'as une vision complètement aveuglée de la retraite. C'est un concept théorique, Patrick. Moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, là, genre 6 ans, pas grand-chose. Mais techniquement, je suis aveuglé par la retraite. C'est-à-dire que je l'oublie parce que je ne la vis pas, parce que j'ai une capacité active, mais je dois planifier cette retraite-là. Quelque chose de dolle un peu là-dedans, je le complète. Très plate.
Mais en terminant, là, oui. Est-ce que tu trouves qu'ici au Canada, on est mieux placé qu'aux États-Unis pour faire face à la vieillesse?
On a plus de filets sociaux au niveau de la santé, au niveau des contributions sociales, et les écarts de richesse sont moins grands parce qu'on a une taxation, une imposition sociale-démocrate. Maintenant, on le souligne bien aussi à la Banque du Canada, on a une croissance économique anémique et on a un pays dont l'économie est beaucoup plus chambranlante que celle des Américains. Et donc, les Américains, quand tous les capitaux du monde se dirigent vers là, quand c'est le temps d'investir, comme on le fait nous au Canada, puis que nous au Canada, on se regarde avec nos ressources naturelles, puis dès que ça shake un peu, on panique, comment on va être capable de supporter ça, notre train de vie actuel et la croissance et la protection des gens? Si on ne génère pas de valeur sur laquelle on peut avoir des taxes et des impôts, c'est la bonne question.
À demain, Pierre-Yves. Merci beaucoup.
C'est 23.